Chapitre 2. L'ombre. Madame Darling cria, et comme en réponse à un coup de sonnette, la porte s'ouvrit. Nana revenait de sa soirée au dehors. Elle gronda et bondit vers le garçon qui s'élança prestement par la fenêtre. Madame Darling poussa un nouveau cri, de détresse cette fois, certaine que le garçon s'était tué. Elle descendit en courant jusqu'à la rue pour recueillir son petit corps. Elle ne le trouva pas. Elle regarda vers le haut et dans la nuit noire, crut voir passer une étoile filante. De retour dans la chambre, elle s'aperçut que Nana tenait quelque chose dans sa gueule. Ce quelque chose se révéla être l'ombre du garçon. Lorsqu'il avait sauté, Nana avait vite fermé la fenêtre. Trop tard pour l'attraper lui, mais son ombre était restée coincée. En claquant, la fenêtre l'avait arrachée. N'en doutez pas, Madame Darling examina l'ombre avec soin. Mais c'était tout à fait une ombre de l'espèce commune. Nana ne demanda pas ce qu'il fallait en faire. La meilleure solution était de la suspendre à la croisée. Ce qu'elle fit, songeant que comme il ne manquerait pas de revenir la chercher, mieux valait la mettre dans un endroit où il pouvait la reprendre sans déranger les enfants. Malheureusement, Madame Darling ne pouvait laisser l'ombre suspendue à la fenêtre. « On dirait du linge qui sèche. Cela gâte l'allure de la maison, se dit-elle. » Fallait-il la montrer à M. Darling? Il était en train d'additionner des manteaux d'hiver pour John et Michael, une serviette humide autour de la tête pour se garder les idées claires. C'eût été indécent de m'interrompre. De toute façon, elle savait d'avance qu'il dirait « Voilà ce qui arrive quand on a un chien comme bonne d'enfant. » Elle décida donc de rouler l'ombre et de la ranger soigneusement dans un tiroir en attendant dans l'occasion d'en parler à son mari. Las. L'occasion se présenta une semaine plus tard, un certain vendredi d'impérissable mémoire. Comme on l'apprendra plus tard, ce vendredi est celui de la disparition de Wendy, John et Michael, conduit par Peter Pan vers le pays de l'imaginaire. Ce jour-là, les darlings se remémorent tous les moments qui ont précédé cette disparition. Les jeux des enfants, pendant que se préparaient pour aller dîner chez des voisins, puis la scène du sirop. 6 mètres de lui qu'il fût, M. Darling s'était conduit plutôt bêtement à propos de ce sirop. S'il avait une faiblesse, c'était de croire que toute sa vie, il avait avalé les médicaments sans broncher. Lorsque Michael avait détourné la cuillère dans la gueule de Nana, il avait dit d'un ton réprobateur « Sois un homme, Michael !»« je veux pas !» criait Michael. Madame Darling alla chercher du chocolat, ce que M. Darling jugea comme un manque de fermeté. « Ne le gâte pas, maman !» lui cria-t-il. « Michael, à ton âge, je buvais mon sirop sans faire d'histoire. Je disais « Merci, chers parents, de me donner des sirops pour mon bien !» Il était persuadé que les choses s'étaient passées ainsi, et Wendy le crut également. « N'est-ce pas que le sirop que tu prends quelquefois est beaucoup plus mauvais, papa ? » dit-elle pour encourager son petit frère. « Il n'y a pas de comparaison, dit M. Darling téméraire. Je t'aurais donné l'exemple, Michael, si la bouteille ne s'était égarée. » Elle ne s'était pas égarée à proprement parler. Une nuit, il était grimpé jusqu'en haut de l'armoire et y avait caché le flacon. Il ignorait que la consciencieuse Lisa l'avait trouvé et remis sur l'étagère de la salle de bain. « Je sais où il se trouve !» s'écria Wendy, toujours prête à rendre service. « Je cours le chercher. » Elle sortit avant qu'il ait pu l'arrêter. Alors, bizarrement, sa vaillance chancela. « John, dit-il avec un frisson, c'est un truc infect. C'est poisseux, fade, c'est écœurant. »« Juste un mauvais moment à passer, papa, » dit John encourageant. Wendy rapportait déjà la potion dans un verre. « J'ai fait le plus vite possible, » alluta-t-elle. « Tu as... » était merveilleusement rapide, rétorqua son père, mais la politesse vindicative de cette réplique échappa à Wendy. « Michael, d'abord, » ajouta-t-il têtu. « Non, papa d'abord, » dit Michael, qui était d'un naturel méfiant. « Ça va me rendre malade, tu sais, » fit M. Darling menaçant. « Allons, papa, vas-y, » dit John. « Toi, tiens ta langue, » lança son père. Wendy n'en croyait pas ses yeux. « J'étais sûre que tu l'avalerais d'un coup, papa. » « Là n'est pas la question, dit-il. Il y en a plus dans mon verre que dans la cuillère de Michael. » Son noble cœur était prêt d'éclater. « Ce n'est pas du jeu. Même en rendant le dernier soupir, je le dirai encore, ce n'est pas du jeu. »« Papa, j'attends, » dit Michael froidement. « Cela te va bien de le dire, moi aussi j'attends. »« Papa est un dégonflé. »« C'est toi qui es un dégonflé. »« Je n'ai pas peur. »« Moi non plus. Alors bois-le. »« Bois-le toi-même. » Wendy eut une idée formidable. « Et si vous le buviez en même temps ?»« D'accord. » dit M. Darling. « Prêt, Michael ?»« 1, 2, 3, » dit Wendy. Et Michael avala sa potion, tandis que M. Darling cachait la sienne dans son dos. Michael poussa un cri de rage. « Oh, papa !» fit Wendy. « Que signifie ce « oh, papa » ?» demanda M. Darling. « Arrête ce chahut, Michael. J'avais l'intention de le boire, mais j'ai raté mon coup. » C'était terrible, cette façon qu'ils avaient tous trois de le regarder, comme s'ils lui retiraient leur estime. Eh, venez voir, vous autres, dit-il d'une voix suppliante dès que Nana fut rentrée dans la salle de bain. Je viens d'imaginer une bonne blague. Je vais verser mon sirop dans l'écuelle de Nana, et elle le boira, croyant que c'est du lait. Cependant, ils n'osèrent pas le dénoncer quand Madame Darling revint avec Nana dans la pièce. Nana, brave chienne, dit-il en lui tapotant la tête, je t'ai mis un peu de lait dans ton bol. Nana remua la queue, courut vers son écuelle et se mit à laper. Puis elle lança à Monsieur Darling un de ses regards. Pas un regard de colère, non, mais ce larmoiement pathétique qui vous déchire le cœur de pitié pour la noble race canine. Et elle rampa dans sa niche. Au fond de lui-même, Monsieur Darling éprouvait une honte immense. Mais il ne voulait point reconnaître ses torts. Dans un silence terrifiant, Madame Darling renifla l'écuelle. « Georges, dit-elle, c'est ton sirop !»« C'était une farce, brailla-t-il, tandis que sa femme consolait les garçons et que Wendy serrait Nana dans ses bras. « C'est bien la peine que je me donne tant de mal pour vous faire rire, » ajouta-t-il amer. Wendy caressait toujours Nana. « C'est ça, cria-t-il, dorlote-la bien. Personne ne me dorlote, moi. Je refuse que ce chien reste une heure de plus dans cette chambre à mener une vie de grand seigneur. » Les enfants se mirent à pleurer. Nana accourut vers lui d'un air implorant, mais il la repoussa. Il était redevenu l'homme fort. « Inutile, s'écria-t-il. Ta place est dans la cour et je vais tout de suite aller t'y attacher. » Lorsqu'il eut attaché Nana dans la cour de derrière, le misérable père alla s'asseoir dans le corridor, les poings sur les yeux. Pendant ce temps, dans un silence inaccoutumé, Madame Darling avait couché les enfants et allumé les veilleuses. On entendait Nana aboyer et John pleurnicha. C'est parce qu'il l'enchaîne dans la cour. Mais Wendy était plus perspicace. « Non, Nana aboie autrement quand elle est malheureuse, dit-elle, loin de se douter de ce qui allait arriver. Ça, c'est son aboiement quand elle flaire un danger. »« Un danger ? Tu en es sûre, Wendy ? Oh oui !» Madame Darling frémit et s'assura que la fenêtre était solidement fermée. Elle regarda au dehors. La nuit fourmillait d'étoiles qui se pressaient autour de la maison, comme curieuse de voir ce qui allait se passer à l'intérieur. Mais Madame Darling ne remarqua pas ce détail, ni le fait qu'une ou deux, parmi les plus petites, lui clignaient de l'œil. Cependant, une peur sans nom atteignit son cœur et la fit soupirer. Oh, si seulement je ne sortais pas ce soir. Michael, bien qu'à moitié endormi, perçut l'inquiétude de sa mère et demanda « Est-ce qu'il peut nous arriver quelque chose de mal, maman, du moment que les veilleuses sont allumées ?»« Rien, mon trésor, répondit-elle. Les veilleuses sont les yeux que la maman laisse derrière elle pour protéger ses enfants. » Elle passa de lit en lit, chantant des sortilèges à chacun d'eux, et le petit Michael lui noua les bras autour du cou. « Maman, s'écria-t-il, je suis content de toi. » Ce fut les derniers mots qu'il devait lui adresser avant longtemps. Le numéro 27 n'était distant que d'une centaine de mètres, mais il avait un peu neigé et les Darling durent se frayer soigneusement un passage pour ne pas salir leurs souliers. La rue était déjà déserte et toutes les étoiles les observaient. Certes, les étoiles sont belles, mais elles sont incapables de prendre une part active à quoi que ce soit et condamnées à jamais au rôle de spectatrice. C'est le résultat d'un châtiment infligé il y a si longtemps qu'aucune d'entre elles ne sait plus pour quel crime. Les plus anciennes ont déjà le regard vitreux et prononcent rarement une parole. Les étoiles parlent par scintillement. Mais les plus jeunes sont encore capables de s'étonner. Elles ne nourrissent pas de sentiments particulièrement amicaux envers Peter, qui a la manie polissonne d'essayer de les souffler en les surprenant par derrière. Mais elles sont tellement friandes d'amusement que cette nuit-là, prenant son parti, elles attendaient impatiemment que les grandes personnes lui laissent le champ libre. Aussi, à peine la porte du numéro 27 se fut-elle refermée sur Monsieur et Madame Darling, qu'un frémissement secoua tout le firmament. Tandis que la plus petite étoile de la Voie lactée s'écriait « Tu peux y aller, Peter !»